Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Vous le savez, les effets du changement climatique sont déjà là, comme l'ont montré tous les événements exceptionnels qui se sont produits ces derniers mois. Inondations records, incendies qui se sont multipliés, canicules exceptionnelles, etc. Dès lors, se pose la question de l'adaptation. Est-ce que, voilà, ça y est, il faut apprendre à vivre avec le changement climatique? C'est la question que nous posons ce soir. Cela voudrait dire qu'il est trop tard pour inverser la tendance. Et comment s'adapter pour que cela ne relègue pas la lutte contre le réchauffement de la planète? Voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés en studio, Françoise Vimeux, bonsoir.
Bonsoir.
Climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Face à vous, Vincent Viguier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en économie du changement climatique au CIRED, qui est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et vous êtes également chercheur à l'école des ponts ParisTech. Enfin, notre troisième invité est Mathieu Glachan, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste de l'environnement et professeur à l'école des mines Paris. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, première question, Françoise Vimeux, vous qui êtes climatologue, comment est-ce que vous définiriez les premiers effets du changement climatique auquel on est confronté, au-delà des événements exceptionnels que j'ai cités? On peut donner des exemples?
Oui, bien sûr. Alors déjà, on peut dire que le réchauffement climatique aujourd'hui, il est de 1,1 degré par rapport à la deuxième moitié du 19e siècle. C'est un réchauffement de notre atmosphère et puis aussi de l'océan. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique, le réchauffement climatique, il se généralise, il s'intensifie, si bien que aucun territoire ne peut dire qu'il n'est plus touché. Après, sur les effets, on peut en citer plusieurs. Alors, il y a quand même les événements météorologiques extrême, parce que en fait ils ont un côté malheureusement spectaculaire et surtout ils ont un impact qui peut être vraiment catastrophique. On a vu ces inondations au Pakistan, dont on sait que le changement climatique est venu exacerber les cumuls de pluie.
Oui, parce que c'est pas nouveau, les inondations, mais là c'est la multiplication qui montre les effets du réchauffement climatique.
Le changement climatique vient en quelque sorte exacerber, doper ces événements extrêmes. Il y a toujours eu des événements extrêmes, mais en fait non seulement ils s'intensifient, mais ils sont beaucoup plus fréquents. Et donc à chaque fois qu'il y a un événement extrême, on se pose nous la question en tant que climatologue, est-ce que cet événement extrême est dû ou pas au changement climatique? Et on regarde si cet événement se serait produit dans un climat non modifié par l'homme. Donc là par exemple, pour les inondations au Pakistan, ce que l'on voit, c'est que le changement climatique, je disais, vient exacerber les cumuls de pluie. Lorsqu'on regarde par exemple sur notre territoire hexagonal, la canicule de juillet 2019, on sait qu'elle aurait été quasiment impossible dans un climat non modifié par l'homme. Donc il y a les extrêmes météorologiques, il y a aussi des tendances et des effets de seuil. On voit bien qu'on a des étés de plus en plus chauds, des hivers qui sont de moins en moins froids, même si ça n'empêche pas d'avoir de temps à autre des hivers froids. On voit aussi le niveau de la mer qui monte doucement, graduellement, mais on en est déjà à 20 cm depuis le début du XXe siècle. Et ça, c'est problématique, surtout pour les petites îles. Et là, je pense à nos territoires d'outre-mer qui sont particulièrement vulnérables aux inondations lors des tempêtes ou des cyclones, puisqu'on a des submersions marines beaucoup plus importante, avec un niveau moyen des mers plus élevé.
Et est-ce que, quoi que l'on fasse maintenant, les prochaines années seront toujours pires en termes de réchauffement climatique?
Alors, il y a plusieurs options. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si dès demain, on diminue de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui va se passer, c'est que à cause de l'inertie du système climatique, ça va prendre 20 à 30 ans pour stabiliser le réchauffement. Mais on va arriver à le stabiliser, mais la température ne va pas redescendre au cours du 21e siècle.
Mais ça veut dire que pendant les 20 à 30 prochaines années, on va avoir ces effets du réchauffement climatique.
Alors, et puis, ils vont être, je dirais, pires, puisque ça va continuer à se réchauffer. Ça, c'est le meilleur des cas. Nous ne sommes pas sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre qui nous mènent dans le meilleur des cas. Nous sommes sur des trajectoires qui nous emmènent à un réchauffement de l'ordre de 3 degrés à la fin de ce siècle. Et donc, je crains malheureusement que nous allons avoir des conséquences de plus en plus fréquemment, de plus en plus intenses et qui vont toucher de plus en plus de territoires hyper vulnérables.
Augmentation de 3 degrés, alors que l'objectif, on le rappelle, de l'accord de Paris, c'était limité à
1,5 degré. Mais nous savons a priori qu'on va dépasser ces 1,5 degré entre aujourd'hui et 2040. On n'est pas du tout sur les bonnes trajectoires.
Ça veut dire quoi, Vincent Viguier? Ça veut dire qu'on a d'autres choix que de s'adapter au changement climatique aujourd'hui?
Alors, effectivement, il faut voir que, comme vous l'avez justement souligné, on vit déjà dans un climat qui est différent du climat d'avant. Et ça ne va pas s'arrêter. et que le climat qu'on voit maintenant, il y a tout un tas d'impacts très négatifs, comme vous l'avez dit. C'est différent du climat qu'il y avait il y a 5 ans. Et dans 5 ans, le climat sera autant différent du climat d'aujourd'hui que celui d'aujourd'hui l'est du climat passé.
Donc, oui, ça va durer 20-30 ans, comme a dit Françoise Bimeux.
C'est 20-30 ans, si jamais, du jour au lendemain, on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre.
Donc au mieux.
Au mieux.
Au mieux, et bien sûr. Mais si vous voulez, il y a même certaines conséquences du réchauffement climatique, hein, si je ne me trompe pas, comme la montée du niveau des mers, qui, elle, va être là pour des centaines, voire des milliers d'années.
Et donc l'adaptation, c'est le maître mot aujourd'hui. Et la rupture n'est plus possible.
Et exactement. En fait, par exemple, cet été, lorsqu'il y a eu tous les impacts qu'on a pu voir en France, il y avait dans certains médias des évocations d'un possible retour à la normale les années suivantes. Bien sûr, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un climat différent. Et donc, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à adapter face à ce nouveau climat. Alors, il y a notamment tout ce qui concerne les infrastructures, typiquement les habitations, pour résister à des... pour ne pas qu'il y ait trop d'impact sur la santé ou sur l'économie lors des épisodes de canicule. Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau de la planification, typiquement dans les zones qui sont aujourd'hui à risque d'inondation et dans lesquelles le risque va s'aggraver, ou dans les zones qui seront dans le futur soumises à des inondations qui n'existent pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire également dans tout ce qui concerne la prévision économique de beaucoup de secteurs. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un certain nombre de secteurs en France aujourd'hui, de secteurs économiques, qui ont des activités très menacées à plus ou moins court terme, plus ou moins long terme, par le réchauffement climatique. Je pense notamment, par exemple, au ski en moyenne montagne ou à la viticulture. Et ce sont des secteurs dans lesquels, de manière assez globale, il y a plutôt un manque d'anticipation du réchauffement climatique à venir.
Mais est-ce que cette notion, on va les détailler ces pistes, mais est-ce que cette notion d'adaptation, elle est vraiment rentrée dans les mœurs ? Est-ce qu'elle s'impose aujourd'hui ?
Alors, c'est difficile à dire. Disons que lorsqu'on regarde en France, en tout cas de la part d'un certain nombre d'institutions publiques et de la part de beaucoup d'acteurs privés, en tout cas, il y a clairement une myopie face à ces événements, c'est-à-dire un gros manque d'anticipation. D'ailleurs, ce n'est pas que quelque chose qu'on observe en France. Il y a eu, c'était cet été, si je ne me trompe pas, un rapport des Nations Unies sur le déficit d'adaptation dans le monde, que ce soit dans les pays développés, dans les pays en développement, c'est vraiment quelque chose qu'on observe partout. Et d'ailleurs, un autre point qui est assez important à voir aussi là-dessus, c'est que l'adaptation, ce n'est pas que se préparer aux impacts qu'il va y avoir, c'est aussi bien le faire. Et notamment, alors quelque chose sur lequel on va, je pense, pas mal revenir, c'est le concept de maladaptation. Mmh. C'est-à-dire le cas où, en croyant bien faire, en essayant de faire des choses pour être moins vulnérable aux impacts du changement climatique, mais en fait, on aggrave des problèmes.
Est-ce que c'est le risque, si on fait émerger cette notion d'adaptation au plus haut rang, parce qu'aujourd'hui, on parle d'abord de lutte contre le réchauffement climatique, plus que d'adaptation?
Alors, effectivement, bien sûr, là on parle d'adaptation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'effort prioritaire, l'enjeu principal, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On peut regarder le problème comme on veut, on peut quantifier ça comme on veut, dans tous les cas, c'est toujours beaucoup plus rentable, beaucoup plus efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui que de moins les réduire et de s'adapter. Mais disons que ceci étant fait, une fois qu'on fait tout ce qu'on peut pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi prendre en compte ce nouveau climat, et en fait, il faut faire les deux en même temps.
Est-ce que, justement, cette adaptation au réchauffement climatique ne risque-t-elle pas de reléguer, justement, la lutte contre le réchauffement climatique ? Est-ce que c'est pour ça, justement, qu'on ne le donne pas comme maître mot ? Mathieu Glachan, vous souhaitez répondre à cette question.
Oui, sur ce point, je pense qu'on a trop entendu cet argument, justement. Mais ça y est, on y est, je veux dire, on est à plus 1,1 degré. Mmh. Madame vient nous expliquer qu'on va l'être à 2 degrés. Oui. Et donc, si on continue à tenir le discours qui est « Non, non, on ne s'adapte pas parce que ça va nous empêcher de réduire les émissions de gaz à effet de serre », il est trop tard, maintenant.
Mmh. Il faut à la fois s'adapter et à la fois
éviter un petit peu la catastrophe qui peut s'annoncer à des niveaux très élevés d'augmentation de la température.
Mmh. Françoise Dumont.
Oui, d'autant que je pense qu'il faut rappeler à nos auditeurs qu'il y a des limites dures à l'adaptation. On sait qu'au-delà de 1,5 ou 2 degrés de réchauffement global, il y a des territoires pour lesquels l'adaptation sera complexe, voire totalement impossible. Et là, je pense toujours à ces états insulaires où tant qu'ils ne sont pas recouverts par le niveau des mers, eh bien, les habitants peuvent reculer, peuvent monter en hauteur, se mettre sur pilotis, etc. Il y a des solutions. C'est un exemple un peu caricatural, mais le jour où la mer recouvre l'île, vous n'avez plus de territoire, donc il n'y a plus d'adaptation possible.
Mais alors, Je pose la même question que j'ai posée à Monsieur Glachand. Pourquoi est-ce que cette notion d'adaptation, elle n'est pas devenue le maître mot de la lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui ?
Alors moi, j'ai l'impression qu'elle le devient avec les derniers rapports du GIEC, et en particulier les volets 2 et 3 sur l'adaptation et l'atténuation, où il est quand même très clairement dit que ces deux voies d'adaptation et d'atténuation doivent être menées en parallèle, et que l'adaptation toute seule ne suffira pas, mais qu'elle est absolument indispensable, et que l'atténuation, évidemment, va nous empêcher d'aller vers la catastrophe, va nous permettre de stabiliser le réchauffement.
Vincent Veillier.
Oui, il y a aussi, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'adaptation est présente, par exemple, dans le discours public. En France, vous avez le plan national d'adaptation, dont la troisième mouture est en train d'être faite. Donc, c'est un plan qui est actualisé tous les 5 ou 6 ans pour prendre en compte l'évolution des connaissances. Et on est déjà, voilà, à la troisième version de ce plan. De la même manière, toutes les collectivités territoriales de plus de 30 000 habitants doivent faire dans leur plan climat un plan d'adaptation face aux impacts du changement climatique. Donc toutes les collectivités en France ont un volet adaptation dans leur plan climat, alors plus ou moins développé bien sûr, mais en tout cas c'est des choses qui existent. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que historiquement, c'est-à-dire dans les années précédentes, disons jusqu'à récemment, il y avait un peu cette idée que trop insister sur l'adaptation, c'est insister sur le fait qu'on va être capable de gérer les impacts du changement climatique, et que du coup, c'est pas trop là-dessus qu'il faut mettre l'accent. En fait, ça, c'est pas complètement vrai, simplement parce que dès qu'on travaille un petit peu sérieusement sur la question, enfin, dès qu'on regarde un tout petit peu, en fait, on voit très vite que l'adaptation, comme vous avez souligné, c'est le juste essuyer les plâtres. C'est essayer de réduire certains impacts autant qu'on peut. Et d'ailleurs, il y a tout un tas d'impacts face auxquels on ne sait juste pas du tout comment s'adapter, comme par exemple la baisse, l'érosion de la biodiversité, dont une partie est, disons, provoquée par le changement climatique. On n'a quasiment aucun moyen de s'adapter à ça, alors que ça peut avoir de nombreuses conséquences, même dans un pays industrialisé et développé comme la France.
Alors, c'est intéressant ce que vous me dites sur la biodiversité. Je vais vous citer ce qui était écrit dans l'accord de Kyoto en 1997, donc il y a 25 ans. Stabiliser les émissions pour ne pas dépasser un certain seuil de dangerosité afin que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement au changement climatique. Aujourd'hui, il faut adapter les écosystèmes au changement climatique, ou est-ce que c'est à l'homme aujourd'hui de s'adapter au changement climatique ? Qui veut répondre, Mathieu Glachand ?
C'est une question qui est très compliquée, en tout cas pour moi. Bon, on est d'abord intéressé par nous-mêmes, et donc je pense qu'il faut déjà nous s'adapter. C'est ça. Et par ailleurs, pour s'adapter nous-mêmes, il faut préserver des écosystèmes. Moi, je connais assez bien La Rochelle, par exemple, où il y a tout un débat sur la montée des eaux. Il y a eu Xynthia en 2010, qui a fait des dizaines de morts. Et là-bas, un des sujets, c'est aussi de préserver les marais à des fins, pas seulement de biodiversité, mais aussi comme barrière naturelle, comme solution naturelle à la montée des eaux et aux inondations du type Xynthia.
Alors, comment s'adapter au changement climatique ? C'est une question qui découle de notre débat. Notre débat, c'est est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec le changement climatique ? Vous nous dites globalement que oui, c'est une réalité aujourd'hui qui va s'imposer dans les prochaines décennies. Comment s'adapter au changement climatique ? Je reviens vers vous, Vincent Viguier, parce que vous avez commencé à évoquer quelques pistes.
Alors, pour s'adapter au changement climatique, il y a beaucoup de choses à faire. Disons que un message assez global, c'est de faire deux choses. D'une part, de se projeter dans l'avenir. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une entreprise ou d'une collectivité locale, donc de faire de la prospective et un plan de développement sur ce qui va falloir être fait dans les années à venir, et d'intégrer à ça l'évolution du climat. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'une collectivité doit développer une nouvelle zone d'habitation, une nouvelle infrastructure comme une route, veut développer son économie, ou peu importe, en général, pour faire ça, on s'appuie sur, je sais pas, des projections démographiques, sur une image du territoire que l'on veut, des choses comme ça. Faire de l'adaptation, en fait, c'est intégrer à cette image future le fait que le changement climatique aura des impacts.
Concrètement, ça peut se traduire comment ?
Alors, concrètement, ça peut être par... il faudrait que je trouve un exemple. Ça dépend beaucoup d'un territoire à l'autre parce que les impacts varient beaucoup. Mais si on prend, je sais pas, le cas de Paris. Alors, bon, Paris, c'est une ville qui fait beaucoup de choses sur ces questions d'adaptation. Il y a d'une part, par exemple, dans tout ce qui est la rénovation de bâtiments publics, le fait de prendre en compte que lorsqu'on rénove un bâtiment, c'est pour plusieurs années, et que donc ce sera aussi pour un climat dans lequel il y aura plus de canicules. Donc, de mettre l'accent, lorsqu'on rénove, sur le confort d'été, plus que ce qui pourrait être le cas si on regardait simplement le climat actuel. c'est par exemple projeter le fait que lorsqu'on réfléchit à des politiques de transport, que les crues de la Seine, l'impact du changement climatique sur la crue de la Seine, c'est assez compliqué, mais disons qu'en tout cas, potentiellement, il y a un risque, même s'il est difficilement quantifiable, mais d'augmentation des fréquences de crues de la Seine, et que voilà, ça peut jouer sur l'organisation des transports, et notamment, par exemple, sur l'organisation des secours, de choses comme ça, que sur l'accès à la nourriture. Typiquement.
C'est complètement repenser les villes. Est-ce que les villes, elles sont en première ligne, Françoise Vimeux, oui, dans cet objectif d'adaptation au changement climatique?
Oui, alors les villes, en particulier l'adaptation des villes aux vagues de chaleur, pour plusieurs raisons. D'abord, on sait qu'à l'horizon 2050, à peu près 2/3 de la population mondiale sera dans des villes. Ensuite, on sait par exemple que en juillet-août, même en France, il y a des gens qui ne partent pas en vacances et qui restent dans les villes. C'est encore plus vrai dans les pays du Sud en voie de développement. Beaucoup de gens ne partent pas en vacances et restent dans leur logement, mal isolés. Donc il y a un vrai enjeu à rendre plus supportable ces vagues de chaleur.
Parce que les villes captent énormément la chaleur.
Oui, ce sont des îlots de chaleur en fait. Un îlot de chaleur qui va être renforcé si on utilise beaucoup trop la climatisation, puisque la climatisation fait du froid à l'intérieur et rejette de la chaleur à l'extérieur. Et donc là, il y a un vrai enjeu, je voulais dire, à la fois pour notre santé. On voit le nombre de décès reliés aux vagues de chaleur au moment de la vague de chaleur, mais même 1, 2 à 3 mois après. C'était très visible en 2003. Et puis aussi pour notre bien-être quotidien. On a vu en 2019, on a eu une vague de chaleur au mois de juin pendant que les collégiens devaient passer le brevet des collèges. Donc c'est des conditions qui sont pas vraiment... qui sont supportables mais pour notre bien-être qui sont compliquées. Donc il y a des enjeux de végétalisation, on l'a dit, d'isolement des bâtiments. Et ça améliore à la fois le confort pendant l'été parce que la chaleur rentre moins. Puis ça va améliorer votre facture l'hiver parce que la chaleur à l'intérieur va moins sortir. Il y a aussi l'idée de repeindre certains bâtiments en blanc. Ce n'est pas anecdotique. On sait que les surfaces blanches vont refléter davantage l'énergie solaire. Il y a l'idée de mettre davantage de points d'eau. Pourquoi ? Parce que lorsque l'eau s'évapore, c'est un côté rafraîchissant. Puis ça permet aux gens d'aller au bord de l'eau. Donc il y a vraiment tout un tas d'enjeux d'adaptation. Je voulais revenir sur l'exemple de Xynthia là, en 2010 et les digues. Oui. Alors, les digues, c'est typiquement un exemple où ce que vous disiez était tout à fait vrai, où il faut la dimensionner correctement en tenant compte à la fois de l'élévation du niveau des mers dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, des possibilités de submersion marine quand on a une tempête couplée à une marée haute. Et Xynthia, c'est typiquement une digue. Enfin, c'est une digue qui est une maladaptation. Pourquoi ? Parce que derrière la digue, vous aviez des gens qui habitaient, qui se sentaient en sécurité. Et donc, la zone n'a pas été décrétée non habitable. Et puis, il y avait un sentiment de sécurité. Et puis, on s'est rendu compte que non, il y avait un vrai souci. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle une maladaptation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Vincent Viguier.
D'ailleurs, ce qu'il faut bien voir là-dessus aussi, c'est que lorsqu'on parle d'adaptation, ça nécessite une expertise assez particulière. Par exemple, lorsqu'on parle de digue, construire une digue face à des événements naturels actuels, c'est un truc qui n'est pas simple de dimensionner. Voilà. Face au changement climatique, une de grosses parties de la difficulté vient du fait qu'on ne connaît pas très précisément le changement climatique futur. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a des modèles climatologiques qui sont capables de faire des projections sur le changement climatique, qui sont capables d'anticiper sur quelques années ce qui va se passer, ce qui est d'ailleurs un succès qui est assez ouf. Enfin, le fait que globalement l'humanité soit capable de décrire le changement climatique qu'on vit et de l'anticiper, c'est quelque chose qui est assez fou, mais il n'empêche que...
C'est très modulable, effectivement, c'est très évolutif, c'est compliqué d'avoir des solutions pérennes face à ce changement climatique qui évolue.
Exactement. Et en plus, le problème, c'est qu'on ne sait pas précisément quelle sera, par exemple, la montée du niveau de la mer dans 10 ou 20 ans, quelle sera l'évolution des tempêtes, etc. Et donc, lorsqu'on doit faire une digue, par exemple, la digue, il faut la dimensionner face à un événement qui est plutôt incertain, ce qui est assez compliqué. Donc, bien sûr, la solution, c'est de prendre des grosses marges de sécurité, mais ce qui fait que le coût peut être très élevé. Et ça peut être difficile de convaincre, par exemple, un maire, construire une digue, c'est très coûteux. Et plus on la fait haute, plus c'est cher, de faire de grosses marges de sécurité, alors que le coût va être énorme et que l'information n'est pas là concrètement. Quoi.
Donc la construction des digues littorales, c'est une des pistes que vous évoquez ce soir pour s'adapter, parce qu'il faut vivre, vous nous dites, avec ce changement climatique. Vous avez cité, Françoise Vimeux, la végétalisation des villes, faire rentrer évidemment les végétaux dans les villes, construire différemment, évidemment, rénover. Et également, Mathieu Glachan, vous travaillez sur l'innovation verte. Comment est-ce que la technologie peut aussi permettre de s'adapter?
Alors, je veux juste revenir sur les villes, hein, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, qui est climatiseur, climatisation, c'est-à-dire que...
Bah dans la rénovation thermique, l'idée aussi, c'est peut-être pouvoir passer au climatiseur,
mais, alors, ça améliore la performance du climatiseur, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, la stratégie classique pour se protéger des vagues de chaleur, c'est quand même la climatisation. Et là, il y a plusieurs risques avec la climatisation par rapport aux solutions que vous avez listées. D'abord, ça consomme de l'électricité. Et l'électricité, elle peut être encore aujourd'hui majoritairement produite avec des énergies fossiles. Mmh. Ça refroidit les maisons, l'intérieur des appartements en réchauffant l'extérieur de la rue. C'est le principe thermique du système. Et puis par ailleurs, c'est une solution qui sera d'abord adoptée par les riches. Et qui sera plus difficilement adoptable par les gens plus modestes. Et je voudrais introduire dans la discussion cette dimension sociale. Les capacités d'adaptation ne sont pas également distribuées en France à l'intérieur de notre économie, mais surtout au niveau mondial. Entre les solutions dont on parle, qui sont peut-être des solutions pour Paris ou des villes de ce type, et puis des problématiques au Mali. Enfin, au Mali, ils ont d'autres problèmes. Malheureusement, ils cumulent un petit peu les sujets.
Non, mais au Pakistan, où il y a eu des événements exceptionnels.
Au Bangladesh, les îles du Pacifique. On est dans un monde d'asymétrie totale des capacités d'adaptation. Et donc, un monde qui va rendre... qui fait que le changement climatique va le rendre peut-être encore plus injuste et inégalitaire. Il y a un vrai sujet social derrière.
Voilà, comment faire pour que ce combat de l'adaptation au changement climatique ne soit pas un combat de riches?
Exactement. Bah, écoutez, c'est très compliqué.
C'est un appel lancé aux dirigeants.
Il y a deux dimensions. Il y a la dimension de la justice entre pays. Et donc là, il y a l'idée qui est au cœur de la négociation climatique que nous allons transférer de l'argent, nous, les pays riches. On s'est engagé à transférer 100 milliards d'euros par an vers les pays du Sud exposés au changement climatique. Alors, on réussit à peine à le faire. Et pour l'instant, parce qu'il y a une espèce de comptabilité qui est tenue par l'OCDE qui suit cet engagement qui a été pris à Paris en 2015, on a des difficultés à le faire. Et puis en plus, quand on regarde le budget, l'allocation des budgets de ces 100 milliards, ils sont d'abord consacrés à l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, plutôt qu'à l'adaptation. Alors l'atténuation, encore une fois, elle est absolument nécessaire. Mais on peut regretter que quand on parle de pays pauvres qui émettent aujourd'hui peu de carbone et pour qui la grosse problématique, c'est plutôt de se protéger des dommages que nous avons créés depuis la révolution industrielle, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'efforts consacrés à l'adaptation.
Bon. Il y a un risque de creusement clairement des inégalités dans cette politique d'adaptation.
En tout cas, oui, exactement.
Et si on revient sur les stratégies sur l'innovation verte.
Oui. Sur l'innovation. Bah, il y a aussi... l'innovation,
pour rejoindre les pistes.
Bon, l'innovation fait partie de la solution. Il y a des questions technologiques et d'innovation dans l'adaptation, comme il y en a sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a, par exemple, on a parlé de la nécessité d'avoir des bons outils de prévision pour faire de la bonne planification, etc. Ça veut dire des investissements dans des systèmes de prévision météorologique plus sophistiqué, de l'effort de recherche sur la météorologie, sur la prévision des événements extrêmes pour pouvoir prévenir les populations quand l'ouragan arrive, etc. L'agriculture, il y a aussi quand même le problème de l'agriculture, le secteur qui dépend fondamentalement, structurellement du climat. Et donc là aussi, il y a des efforts de recherche à faire sur des variétés végétales qui seraient plus résistantes à la chaleur, à la sécheresse, bien sûr, ou à des maladies induites par la chaleur.
Et qui peuvent s'exporter vers des pays aussi plus vulnérables, moins riches, à condition évidemment d'avoir les budgets, j'imagine.
Vous parlez des technologies ? Oui, alors évidemment...
Ça rejoint ce que vous disiez précédemment.
On est sur les capacités d'adaptation. Il y a la capacité d'adaptation par la technologie. Et c'est vrai qu'il y a cette inégalité aussi fondamentale dans le monde qui est que nous avons les technologies, les pays industrialisés, parce que nous avons les écoles, les universités, la recherche publique, etc. Et alors que les besoins les plus aigus sont plutôt ailleurs... et donc, il y a absolument la nécessité d'organiser un transfert des technologies. Bon, on a travaillé pour la Banque mondiale sur ce sujet, en essayant de faire un bilan, un peu un état des lieux. En utilisant des statistiques de brevets pour essayer de quantifier l'adaptation, les technologies d'adaptation au changement climatique. Et il y avait deux résultats majeurs qui émergent quand on regarde ce qui s'est passé depuis 10-20 ans. Un, ce transfert de technologies ne se fait pas, alors qu'il se fait pour les technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc, et deux, en plus, même le niveau de production de l'innovation dans ce domaine est beaucoup plus faible que dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et même plus faible que la moyenne toute technologie confondue. Mmh. Alors qu'on vient de dire à de multiples reprises que c'était l'un des sujets du siècle à venir.
Donc il y a toujours ce danger que l'adaptation au changement climatique soit suppléée par la lutte contre le changement climatique et que les deux ne soient pas menés finalement de pair. Vincent Viguier, je reviens vers vous parce que vous aviez évoqué le caractère finalement imprévisible de l'évolution du changement climatique. Est-ce que ça signifie que justement il ne faut pas changer le système en profondeur ? Il y a de nombreux entrepreneurs qui croient notamment à la capacité novatrice du capitalisme pour atteindre la neutralité carbone. Je vais citer un ouvrage de l'entrepreneur Guillaume Poitrinal, je vous vois rire Françoise Bimeux, sourire en tout cas. Pour en finir, je cite avec l'Apocalypse, une écologie de l'action, c'est le titre de ce livre. Il estime, Guillaume Poitrinal, qu'il faut, je cite, asservir le capitalisme à l'écologie, comme on a pu l'asservir dans le passé à la démocratie, aux libertés individuelles ou à la justice sociale. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Viguier ?
Écoutez, c'est un grand débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut agir et agir très vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au rythme actuel mondial d'émissions de gaz à effet de serre, dans 7 ans, on aura à peu près 7 ans, on aura émis suffisamment de gaz à effet de serre pour dépasser 1,5 degré, c'est-à-dire l'objectif des accords de Paris.
Donc il faut changer en profondeur le système, tout en menant de pair ce combat de l'adaptation.
Il faut changer en profondeur beaucoup de choses. Alors après, le système, disons que c'est un terme qui peut être un peu flou, qui désigne beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de comportements à changer. Il y a un certain nombre de technologies qui peuvent être simples, comme les vélos, à déployer. Beaucoup de choses peuvent être faites. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a beaucoup de scénarios qui existent, qui décrivent à quoi peut ressembler un monde à zéro émission nette. Il y a différents scénarios qui ont été faits par différentes institutions. Et disons que le gros message, c'est que c'est un monde qui est possible aux technologies actuelles. Donc avec des nouvelles technologies, c'est même encore plus simple. Mais disons que même aux technologies actuelles, en assurant aux populations, même des pays développés, un niveau de qualité de vie qui est très proche du niveau actuel, on peut tout à fait être dans un monde à zéro émission nette. Les deux seules choses, disons, qu'on ne peut pas permettre, c'est dans un monde comme ça, c'est les trajets à longue distance en avion, qui ne sont pas substituables par les technologies bas carbone. Et au niveau alimentaire, il faut réduire la consommation de viande. Mais disons, mis à part ça, c'est des choses possibles.
D'accord.
Après, on voit qu'à l'heure actuelle, on n'est pas en train d'y arriver. Et effectivement, il y a des changements en profondeur à faire pour essayer de résoudre ça.
Françoise Vimeux.
Oui, la technologie, elle fait partie de la solution, que ce soit les solutions d'adaptation ou les solutions d'atténuation. Mais je me méfie d'un aspect parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui ce qu'on appelle du climato-rassurisme. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de climato-sceptiques, en tout cas je n'en croise plus. Donc on voit que plus personne ne nie le changement climatique, plus personne ne nie qu'il a une origine humaine. En revanche, il y a un discours nouveau qui est de dire que ça n'est pas grave, que la situation n'est pas grave parce que les technologies actuelles et les nouvelles technologies qui vont arriver dans les années à venir vont nous sauver. Et ça, c'est faux, en fait. Et donc, je pense que c'est important de le dire. Les technologies font partie de la solution. Elles vont nous aider, mais elles vont pas nous sauver. Et donc, oui, il faut faire des changements en profondeur. Il y a même le mot de métamorphose qui est souvent employé. Il faut des changements structurels. Il faut qu'il y ait une cohérence aussi au niveau de ces changements. Il faut qu'il y ait une organisation au niveau étatique. Et je pense que c'est un peu l'idée avec ce ministère à la transition écologique qui veut organiser, et c'est vraiment ce qu'on attend, parce que il y a des gestes individuels qui peuvent être faits, mais on sait que ça compte pour 25 à 30% de la solution, et puis le reste, ça vient pas de nous. Voilà, donc c'est les changements en profondeur, oui, et il faut y aller dès demain, en fait.
Dès demain. Ouais, rapidement, Mathieu Glachon, il nous reste quelques secondes.
Sur cette histoire de technologie, là où est l'erreur de raisonnement pour ceux qui disent « la technologie va nous sauver », c'est qu'ils oublient que la technologie, c'est nous qui la produisons. Elle ne tombe pas du ciel, ce n'est pas de la pluie qui tombe du ciel. Et donc, il faut créer les conditions pour qu'il y ait de la technologie, et donc une action publique vigoureuse, etc. etc.
Voilà. Et appel, encore une fois, lancé à nos dirigeants. Merci beaucoup, Mathieu Glachon, économiste de l'environnement, professeur à l'école Mines Paris. Merci Françoise Vimeux, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, et Vincent Viguier, merci, chercheur en économie du changement climatique au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement et à l'École des ponts Paris. Merci d'avoir écouté ce débat du jour.